sur la seule valise.
Oui, bonjour, ici c'est Cerise. Cerise, la bourse casse la gueule, donc maintenant tu vas pouvoir garder les noyaux et manger, manger les queues de cerise. Hein? Allez, salut.
Oui, bonjour Daniel. Est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que tu reçois Jean-Marc Sylvestre et puis Alain Madelin, voilà, comme ça, voilà, on pourra t'écouter là avec mon cheval. Et puis sinon, bon, si tu les reçois pas, on ira directement à la source, on ira écouter RTL. Voilà. Allez, continue comme ça. T'es bien parti là avec tes invités là. Que du beau monde. Allez, bye.
Voilà, oh là, mais c'est quoi ce scandale? Mais vous avez invité le diable hier, Bernard Guetta à la Bastille. Oh là là, quelle honte. Bon, vous comprendrez tout de suite que moi j'estime énormément Bernard Guetta, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt tous les matins. Et dans l'émission d'hier, il a bien précisé qu'il était social-démocrate, et ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un de humain, d'humaniste. Et j'aimerais bien que on balance aux invités que vous avez régulièrement, Serge Halimi et consorts, que vous invitiez aussi Bernard Guetta. Vous verrez qu'il ne dit pas que des choses atroces, que c'est pas un réactionnaire, etc. Enfin, ça fait du bien de l'écouter le matin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien. Invitez-le plus souvent, s'il vous plaît. Merci. John.
Oui, salut Daniel, salut toute l'équipe. Effectivement, c'est très surprenant d'entendre Bernard Guetta dans ton émission, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Simplement, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux arguments pro-TCE qu'invoque Bernard Guetta, celui du contre-pouvoir face à l'oncle Sam et le monopole d'hégémonie des États-Unis à l'échelle mondiale, pour moi, c'est l'un des arguments les plus spécieux qui ait pu être invoqué lors de ce fameux référendum. J'en veux pour preuve la réaction de Condoleezza Rice qui a justement qui déplorait le vote négatif et d'ailleurs avec elle toute la classe politique américaine et puis bon et tous les pro-américains les plus frénétiques étaient dans le camp du oui. Je veux dire, c'est totalement absurde d'invoquer le contre-pouvoir, cette fameuse puissance qui doit émerger pour contrer l'oncle Sam. On est complètement à fond sur dans les marches, dans les pas, je veux dire, des Américains, et on est singes en toute chose. On est complètement le double symétrique de cette société décadente des États-Unis, quoi. Donc, de grâce, M. Guetta, de grâce, épargnez-nous ce genre d'argument. Salut à tous, ciao.
Bonjour Daniel, je viens d'entendre presque la totalité de l'intervention de M. Guetta. Je ne suis pas du tout d'accord de lui donner autant de latitude pour qu'il me parle, alors que lui, quand il faisait ses chroniques justement pour le TCE, ne donnait jamais la possibilité d'avoir une autre opinion. France Inter à l'époque n'avait pas trouvé utile, étant donné que la liberté de position de M. Guetta était celle qu'on connaît, il n'avait pas à côté de lui une autre voix qui portait la voix contraire. Ces dénis de justice et d'équité, alors que M. Guetta critique tant les régimes soviétiques, ne accrédite pas d'une éthique de M. Guetta. Je le trouve déplorable. Et en plus, qu'un homme de sa culture journalistique n'ait pas pu déceler les trappes contre la démocratie qui enferment ce traité, qui est exactement à l'inverse de notre liberté de penser, c'est quelque chose non seulement d'inquiétant, sinon de punissable. C'est regrettable que M. Guetta ait autant de latitude chez vous. Je le regrette.
Concernant l'émission de ce lundi, Daniel, j'ai eu envie de te parler comme Socrate le fait avec ses interlocuteurs. Par exemple avec Hippias. J'avais envie de te dire, oui, très bien, Daniel. Je suis d'accord avec toi pour que tu invites des gens qui pensent différemment. Et par exemple, aujourd'hui, Bernard Guetta, au sujet du livre qu'il vient d'écrire avec Jean Lacouture. Mieux vaut le dialogue que la bataille de deux camps, chacun rangé sous ses préjugés. Bon, moi ça me suffit, comme dirait Socrate. Ton explication me suffit. Mais c'est les copains. Ça va pas leur suffire aux copains. Ils vont pinailler. Par exemple, j'ai eu Doudou au téléphone, il m'a dit... Alors moi, quand j'ai entendu que c'était Guetta, j'ai fermé le poste. Oh, c'est stupide, peut-être. Il n'a pas écouté les arguments de Guetta. Mais a ajouté Doudou. Parce que dans l'histoire, Mermet, il fait la promo du bouquin de Guetta. Et c'est vrai que ça peut avoir l'air un peu de copinage. Bon, moi je crois pas ça. Mais c'est les copains. Bon. Allez. Continue, Daniel.
Ah, ça a chauffé, hein, ça a chauffé sur le répondeur là-bas si j'y suis. Surprise, déception, engueulade, approbation. En tout cas, on voit que il y a des différences à l'intérieur de France Inter. On dit France Inter, c'est la différence. Eh bien, la différence, elle existe. Et on l'a entendu hier à l'intérieur même de France Inter. On tourne la page aujourd'hui et on change de paysage, on change de monde, on change de milieu. On va dans une petite un petit patelin de France, dans le Poitou, au-dessous de Poitiers. Un petit patelin qui s'appelle Jancey. Bon, voilà. Et là, on va rencontrer un personnage tout à fait singulier qui s'appelle Pascal Audin. Pascal Audin, c'est un artiste. Voilà, c'est l'artiste du village. Et c'est un artiste tout à fait singulier, avec une histoire très 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 singulière qu'il va nous raconter après l'avoir raconté à Anne Rioux. Et on s'embarque pour cette rencontre avec une phrase de Gaston Chessac. Gaston Chessac, qui fut un artiste, j'hésite à dire le mot artiste, tant ce mot est connoté de compromission avec le beau monde et avec l'ordre des distingués, ce que n'était pas du tout Gaston Chessac, qui quand même interloqua pas mal de monde à l'époque. Lui, le cordonnier Gaston Chessac, a commencé par... Jean Dubuffet, puis par interloquer et surprendre et enchanter finalement tout un monde. Lui qui disait « Sans doute ai-je l'âme très proche des artistes de cirque qui, comme moi, savent à peine écrire et ne sont instruits que par ce qu'ils ont vu. » Eh bien, Pascal Audin, aujourd'hui, c'est un peu ça. Être instruit que par ce que l'on a vu et par ce que l'on a vécu. Alors c'est une balade avec cet homme singulier que je vous propose. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Monsieur Sarkozy a renoué lundi avec la banlieue à Sartrouville. Il est arrivé en soirée en centre-ville, loin, très loin des quartiers, accueilli par les élus UMP et proches, dans la confidence. Il a vite filé quand les gens ont commencé à se rassembler et à descendre en ville pour peut-être le recevoir. Bravo, quel courage et surtout, quelle utilité pour la banlieue. C'est l'heure de Sartrouville.
Bonjour Daniel, un message d'un médecin urgentiste en grève. D'abord un soutien à tous les médecins urgentistes qui sont assignés aux urgences sans pouvoir être en grève réelle et qui se battent pour l'hôpital public et les urgences. Et une annonce d'une formation qui va avoir lieu sur l'hôpital Saint-Louis jeudi 24 janvier sur l'éthique et la médecine d'urgence. ouvert à tous les paramédicaux, médicaux de France et de Navarre, et une réflexion assez novatrice sur la vision extérieure et la vision des urgences par le monde extérieur et sous différents points de vue divers et intéressants. Merci de passer l'annonce. Au revoir.
Au départ, c'est rien, non? C'est dur, hein, de raconter ce qu'ils ont fait, nous, à nous. Partout. Ah oui, hein. Il y a des trucs qui s'est passé, je veux pas en parler.
Je fais un reportage sur Pascal, figurez-vous.
C'est bien, je suis content. Il y a bien des gens qui me disaient, mais toi, tu n'y arriveras jamais. Hein. Je me fais le mur, moi.
Comment on pourrait qualifier votre peinture ?
L'art naïf, moi, je l'appelle. Pas de l'art brut. Là pour enfance. Enfin, un pompier, il m'a dit un jour, c'est marrant, je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a un déclic qui s'est passé. On m'a dit de te suicider, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Anne Rioux et Pascal Audin, les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Flight number 2, arriving from New
York. Voilà, monsieur de la déchetterie, il est là-bas.
Bonjour.
Comment allez-vous? Voilà.
Très bien.
Je fais un reportage sur Pascal.
Le peintre de Jancet.
Ah, il est très connu comme le peintre de Jancet, oui.
Je viens de temps en temps pour regarder ce qu'il y a.
Et alors, et vous n'êtes pas venu en mobylette aujourd'hui?
Ah non, mais t'as eu le temps, hein. En scout, s'il mouille, c'est pas la peine, on est tout mouillé, hein. Je regardais dans la benne de ferroille. Ouais. Je me suis cassé la gueule un jour, là. Ouais.
Dans la benne à ordures, là?
Ça avait drôle, hein. Ouais. Putain, il n'y a rien de spécieux, hein. Il y a un peu de tout.
Tout. Oh, il y a un peu de tout, savoir, hein. Une vieille casserole, un vieux chaudron.
En fait, qu'est-ce que vous cherchez?
Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Mais c'est pour faire une sculpture, une peinture?
Une sculpture. Faut imaginer les affaires un peu. Bon, ça va. Gorgiter dans ma tête. Gorgiter dans la tête. C'est une expression que j'ai, ça. Pour imaginer les choses.
Ah, mais il faut grimper?
Là, il n'y a rien.
Je les connais, les bennes, à force. J'aime bien les fouiller là-dedans, un petit peu.
Vous êtes obligé de descendre là-dedans?
Je suis bien obligé.
J'ai bien fouillé, moi.
Ça va?
Ouais, ça c'est bien ça.
Ça va?
Ça va, ouais. Hein? Ça glisse là. Hein? Bon, regarde ce qu'il jette comme ferraille.
Voilà.
Oh là là, c'est le bordel. Hein? Hop! Yeah.
Le dur c'est monter, t'as vu? Faut t'habituer là. Hein?
Alors qu'est-ce que vous avez trouvé?
Le tricycle là. La ferraille. Ça va me faire un totem avec ça. Je vais me faire un totem. Tu vois, comme ça, ça va être beau.
On va porter tout ça à la maison?
Voilà.
Au revoir. À la prochaine.
Ben voilà. cette benne à ordures, ce tas de ferraille, ce bordel, cette poubelle, ces déchets, ça pourrait être sa vie. Ouais, ça pourrait être sa vie à Pascal Audin. Et il plonge dedans. Et il fouille dans tout ça, il en jette, il en remue, il se bagarre avec tout ça. Et de tout ça, il va faire un totem. Un totem, vous voyez ce que c'est qu'un totem? Oui, vous voyez ce que c'est qu'un totem. Et alors, c'est ce qu'il va faire devant nous. Sauf qu'il va fouiller dans sa vie, dans sa mémoire, dans les plis de sa vie, de sa mémoire, qui fut mise en plis, il va nous expliquer comment eut lieu cette mise en plis qui va déplié pour nous de ces gestes qu'il fait d'artiste qui ramasse des bouts, des déchets du monde, des poussières, des, comme Picasso le fit avec la fameuse chèvre. Vous vous souvenez, la chèvre de Picasso, ou bien avec la selle de vélo et le guidon du vélo, comment il fit le masque d'un taureau. Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Pascal Audin est sur les traces de Picasso. Connaît-il Picasso? Peut-être, peut-être pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui, comment il prend dans sa vie à lui, comment avec ses déchets, il refait le monde. Que fait Picasso? Il refait le monde avec une selle de vélo, un guidon, avec un panier qui va faire le ventre de la chèvre, etc. Il refait le monde avec les déchets du monde, il refait le monde. Et bien Pascal, avec les déchets de sa vie, il refait sa vie. C'est exactement la même chose, comme on dit, se refaire une santé, se refaire la cerise. Vous connaissez cette expression, se refaire la cerise? Et bien c'est ce qu'il a réussi dans sa vie. C'est ce qu'il a réussi dans sa vie et c'est ce que la vie a réussi avec lui. Et les gens du village n'y sont pas pour rien. Il va nous raconter comment partir en dessous de tout, il existe maintenant dans ce patelin de Jancey où il peint avec une frénésie incroyable et qu'il produit cet art. Alors il veut pas qu'on dise art brut, bof, dites art naïf, dites art pour les enfants. Il a pas tort. L'histoire de l'art brut, c'est l'histoire de l'art brut, une histoire bien particulière, très forte, très subversive. Après les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui peu à peu est devenu bon quelque chose de plus gentillet, de plus de l'insolite, de un peu comme le mot surréalisme. Le mot surréalisme renvoie à un mouvement extrêmement fort, extrêmement subversif, qui était en rupture avec la pensée, avec le politique également. Et puis c'est devenu un mot qui veut dire fantaisie, surprise. Voilà, c'est fou. C'est, on lui dit c'est fou. On dit, oh, c'est complètement surréaliste. Voilà. Mais l'art brut a suivi le même cheminement. Mais Pascal Audin, aujourd'hui, on va voir ce qu'il produit comme art, et qui est un art, je le disais en commençant, qui est évidemment hors de toute spéculation, hors du marché de l'art, hors de l'art pour les distingués et les spéculateurs. C'est tout à fait autre chose. C'est un homme singulier que nous allons découvrir d'ici à 16h sur France Inter. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
La peinture à la huile, c'est bien difficile à huile, mais c'est bien plus beau dans la dira dira dodo que la peinture à l'eau. Rap tap 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 tipeto, rap tap 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 tipeto, carabine carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable, elle est admirable, on en mangerait petit 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 petit. C'est un jeu pas Hawaïl, on dit de verre en Hawaïl, et puis on termine dans la dira dira dodo par plaisanterie fine à l'obsès. Rap tap 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 tipeto, rap tap 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 tipeto, cannabis de carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit 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 petit. Les automobiles gogolo, dar la di la di la dodo, ti pedalo à l'eau, allo, ab dab 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 di peto, ab dab 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 di peto, carabi de carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit petit petit.
Bonjour, comment ça va?
Ça va, tu es allé déjeuner, hein?
Au café du commerce, là-bas?
Voilà.
Bonjour, vous connaissez Pascal?
Oui, c'est un client. Ah, c'est sûr, c'est un client particulier. Oui, Pascal, c'est quelqu'un de connu, ah, j'en sais, de reconnu certainement un jour, parce qu'il fait des choses particulières. Fait de la peinture, du dessin, des choses un petit peu hors du commun. C'est quelqu'un de particulier, qui est sympathique, il fait pas d'histoire. Mais il a un art, comment on peut appeler ça, baroque, un peu contemporain. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, brut, naïf.
Et vous, alors vous connaissez Pascal ?
Oh, j'étais une fois ou deux visiter son atelier. J'ai trouvé ça un peu, oui, bizarre, on va dire. On peut dire ça bizarre.
Puis on voit quand on passe devant chez lui, de toute façon. Parce qu'il a peint ses volets, et puis voilà, de temps en temps, on voit...
Les totems.
Voilà, les totems, il expose ça devant ses fenêtres. Voilà, ça attire l'œil. Voilà, il y a un artiste chez nous.
Et vous venez tous les jours ici, vous prendre un café?
Tous les matins.
C'est la petite ville, la petite vie du matin, où tout le monde se retrouve au café, en commentant le journal du coin, et en sachant les petites histoires du coin. C'est comme ça? Ça va être un deuxième Picasso.
J'aime pas ce mot-là.
Comme Picasso, c'est un peu quelqu'un qui faisait, je pense, des dessins un petit peu excentriques, un peu bizarres. Ouais. Et ben voilà, ça y est, Pascal, on l'a appelé comme ça tout de suite. Je trouve Pascal, c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde et qui s'intègre bien là où il vit, je pense. Hein. Il irait vivre sur la banquise, il arriverait à s'entendre avec les ours, je pense. Hein.
Bon, merde, pas de la vie, moi.
Il cultive ses patates, il cultive ses tomates,
voilà.
Comme tout le monde. Merci, monsieur.
Si quand j'ai un moment, tac, je ramasse mes légumes. Hein. Ah ouais. Puis après, je peins, moi, le matin, hein, pour faire plaire aux gens un petit peu ce qu'on ressent. Là. Oh, chez moi. Hein.
Bah, c'est juste de l'autre côté de la place. Merci.
Merci.
Allez, au revoir. Ah, j'ai eu encore.
C'est pas long hein, de traverser la place de Jancey, son château, son parc floral au cœur de la région Poitou-Charentes, à 25 km au sud de Poitiers et à 30 km du Futuroscope. Seulement, vous vous rendez compte, et à Jancey, eh ben, il y a Pascal Audin, on voit que ça se passe bien, hein, dans le bistrot en face, ils sont gentils comme tout, et voilà, c'est un homme hors du commun, et comme dit la gentille patronne, il y a un artiste chez nous, voilà, et c'est cet artiste que je vous propose de découvrir. Je vais parler de l'art brut, et l'art brut, vous savez peut-être, celui qui a inventé le concept d'art brut, c'est Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet, qui était un peintre, un beau jour, il en a eu marre, il a tout arrêté. Et il s'est mis, comme il le disait lui-même, à glorifier le banal, et à lutter contre l'asphyxiante culture, disait-il. Et ça a donné une grande rupture, effectivement, dans l'art officiel, dans l'art des maîtres, dans l'art distingué, dans l'art académique, dans l'art professionnel, dans l'art des artistes, au service des pouvoirs. Et il s'est tourné vers les productions des personnes obscures, disait-il, étrangères au milieu artistique professionnel. Et il s'est émerveillé, étonné, il a promu l'art des malades mentaux, des enfants, des gens vulnérables, des gens marginaux de toutes sortes, pour constituer ces splendides collections qui sont celles de l'art brut, mettant en avant le gribouillage, la matière brute, et découvrant les racines, les origines de l'art si mystérieuse. Qu'est-ce qui fait qu'un homme prend un caillou, le met comme ça alors que le caillou était comme ça, et décide que c'est de l'art? eh ben, ça reste un mystère absolu, dont personne ne sait rien, et sans doute pas, Pascal. Pascal a une vie singulière, et vous allez voir de ce qu'il a fait de cette vie singulière. C'est un totem qui va nous raconter, c'est un totem qui va se déployer devant nous, qui va apparaître devant nous mot à mot, image par image, drame par drame, souffrance par souffrance.
Mon père m'a dit un jour, c'est ce qu'il m'a dit, une phrase qui m'a resté dans ma tête, moi. Eh oui, hein. Tu dîneras jamais. J'aurais même pas dû te faire, tu vois. Ça m'a toujours travaillé, ça, tu vois. L'esprit, toi. C'est comme ça, c'est mes parents, ils voulaient peut-être pas m'avoir, et puis voilà. C'est vrai, hein. Parce que j'étais renfermé dans une loggia, tu vois. Au mètre carré, il n'y en a pas beaucoup, hein. Hein. Quand t'as une porte devant, putain, tu vois, t'as un hockey comme ça, là.
C'est-à-dire que vous étiez le fils qui était enfermé dans le placard.
Voilà. Qui n'a pas été désiré, toi. Voilà, t'as compris. Quand tu dis ça à mes frères, bon, c'est normal. Ils n'ont pas vécu ça. Eux.
Mais vous aviez combien de frères et sœurs?
J'en ai deux.
Et vos frères n'habitaient pas avec vous?
Si. Ils me narguaient.
Ils vous narguaient?
Ouais, avec les steaks. Tu vois un enfant qui est renfermé dans un placard, puis toi, tu vois passer les bons bouts de viande qui se mettaient dans la gaule. Moi, j'avais que dalle, non? Puis il me narguait devant, puis il bouffait les bons steaks, puis moi je bouffais rien. Ouais. Je bouffais le mur, moi. Je bouffais le plâtre. Je revais de faim, moi.
Vous n'avez pas mangé?
Bah non, l'autre, il me narguait avec son steak. Il passait devant, il faisait les cons, quoi.
Mais vous ne mangez jamais à table avec la famille?
Non. Il me cachait, moi. C'est là que tu te dis, putain, il y a une révolte, après plus tard. Mais tu vois pas, il y a pression, tu ne peux rien faire. Ouais. Bah oui. Hein.
Mais vous viviez toujours dans un placard?
Bah oui, quand t'as rien à manger, comment tu fais? Tu restes dans le placard, ils te donnaient comme le chien. Une gamelle de l'eau, puis un bout de pain, puis te démerde-toi après. C'est ça, le chien. Quand t'es pas désiré dans une famille, c'est ça. On croit pas comme ça. On entend parler des fois, hein, dans les journaux, là. Mais c'est dingue, hein, ça. Pouf. Quand tu vois ça, ils sont satermoisés, hein, les enfants, après. Hein. Faut chercher les mots, après, c'est dur. Hein.
Et votre mère, elle vous aidait pas?
Bah non. Hein. Pour elle, c'était normal, non? Voilà. Peut-être on fait vivre peut-être ça à son enfance. On ne peut pas savoir ce qu'il y a eu dans leur vie. Hein. Oui, hein. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Des dingues, ça. Hein. Elle est longue, l'histoire. Hein. Il m'arrivait plein de trucs que je ne peux pas te dire. Hein. Ça ne sort pas, donc c'est tout. Ça reste dans mon cœur. Voilà. Ah oui, il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Hein. C'est secret.
Mais ils vous battaient aussi?
Bah oui, hein. Un coup de ceinture, hein, je connais. Hein. Là, tu crains pas ton mal, après c'est bon. Hein. Au départ, c'est raide. Hein. Bon, après, tu prends qui sont d'habitude. Hein. Puis qui te frappe, hein, tu t'en prends l'habitude après. Hein.
Mais c'était votre père qui vous frappait?
Ouais. Quand ils boivent, les mecs, ils sont bons. Hein. Tu veux plein de trucs qui s'est passé après, c'est dingue aussi. Hein. T'es brûlé après. Hein.
Et votre mère ne vous battait pas?
Non, c'est mon père. Mais elle était violente aussi. C'est elle qui commandait tout. Ouais, pour l'argent, tout ça. C'est ma mère qui disait, bon, il mérite ça, voilà, c'est comme ça. C'est moi qui paye aussi pour les autres. Il faisait des conneries, c'est moi qui prenais. Mais ça va, la tête, je bougeais pas du plaqueur, de toute façon. Je faisais pas de conneries. C'est toujours comme ça, de toute façon. Il est volé, j'en ai ramassé hein, sur les fesses, hein. Je sais ce que c'est. Hein. Oh, bah, coyon. Ça fait mal, des fois, quand t'es ensemble.
Ensemble?
Ouais. Et il faisait comme une ronde. Mes frères, ma mère. Il me déshabillait, puis je me dis, oh là là, ça fait mal, les mains qu'il avait, mon père. Il m'a rappelé toujours de ses mains qu'il a. Hein? Des grandes paluches, hein. Ça fait mal sur les fesses. Jusqu'à temps que je suis rouge, je pisse le sang. C'est dingue, ça. Non, non, pas la tête. Il n'y a pas de marque comme ça. Et voilà. Je me rappellerai toute ma vie, ça. Mais oui, c'est comme ça. Hein? Quand tu brûles quelqu'un, ils font où qu'il faut, hein. T'en fais pas. Puis ça se voit pas. Quand tu mets un pantalon, ça se voit pas. Voilà. Et tu vois rien, toi.
Mais dès le début, ils vous ont mis dans un placard?
Bah oui, c'est comme ça. D'abord, il me tape, puis après, il m'a enfermé, il voulait plus me voir, voilà. C'est pas le désiré, moi, voilà. Mes frères, c'était désiré, eux. Voilà. Il y a toujours un côté dans une famille, j'ai remarqué.
Mais pourquoi, il y a sur trois fils, pourquoi vous?
C'est le dernier. Bah oui, c'est comme ça. J'ai pas choisi, moi, hein. On choisit pas, hein. Comme on dit, on choisit pas sa famille, hein. Ça, c'est vrai, hein.
Le ciel est bleu, le soleil brille, les enfants jouent, s'amusent et sautillent. J'ai du corps au cœur et des chaussettes qui tirent. J'ai du mort au cœur. Les pâquerettes dansent au gré du vent, les enfants joufflent, qui est sautille, j'ai du bon au cœur et des chaussettes qui nient. J'ai du bon au cœur et des chaussettes qui nient. Dans la maison, il faut que ça brille. Les enfants joufflent, crient et s'entortillent. Bien.
Et là, tu sais rien, après, tu vas pas à l'école, non? Hein? Ah oui, voilà, à l'école, tu connais pas. Une journée, j'avais été à l'école. Ouais, une ou deux jours, ouais, pas beaucoup, hein. Moi, j'appelle ça deux jours pour moi.
Vous n'avez jamais appris à lire et à écrire,
non,
alors?
Jamais. C'est ma tante qui m'a appris à lire et à écrire. Elle m'a donné que des bons conseils. Des bons conseils, apprendre à lire. Bah oui, hein. Puis voir ce que je veux faire plus tard. Bah oui, hein. C'est pas facile pour moi. Hein.
Non, mais elle vous prenait quoi, une fois par semaine, tous les jours?
De temps en temps, quand on avait le temps. Parce qu'elle m'aimait bien, voilà. Et moi, j'aimais bien être dans le jardin. Il y avait plein d'enfants, là. C'était rigolo. Hein. Ça me change, là. Il n'y avait pas le mari qui battait, toi. Enfin, je commençais à grandir, moi, tout doucement. Il n'y avait personne qui battait, là. Je mangeais bien, là, tu vois. Elle me cachait chez elle. Ma grand-mère me cachait chez elle, aussi. Mon grand-père, aussi. Sous les marches. C'est rigolo, ça. Tu vas te cacher dans la chambre. Comme ça, tes parents qui viennent, ils sentaient que la voiture arrivait, c'est dingue, hein. Ils me cachaient, mais tu fais pas de bruit, hein. Comme ça, quand ils sont partis, tu pourras manger ton 4 heures, voilà. Moi, je restais chez eux.
Oui, mais pas longtemps.
Ah oui, hein. C'est con, ça. T'es sympa, ma grand-mère. Pour ma tante, j'étais un enfant, frustré, toi. On appelle ça frustré de la vie, toi. Un enfant, pour mes parents, difficile. Pour eux. Il voyait peut-être comme ça, pas comme un concon. Un concon, là, qu'on enveloppe.
Ah, un cocon?
Ouais. Puis hop, on le met de côté, tu vois. Hein?
Mais comment elle a eu l'idée de vous apprendre
parce
à lire?
Elle a sûrement entendu des choses, hein. Ça se fait après dans les familles. Hein? Ah, vous voulez pas que je reste comme ça? Hein? Bah oui, c'est normal, hein. Pour essayer d'apprendre à lire, toi, correctement, les lettres. Puis elle a m'aidé de son côté, c'était bien, ça. Et expliquer, t'as intérêt d'expliquer bien avec moi. Ouais, c'est de phrase, hein. Puis toute une journée comme ça, j'en avais ras le cul, moi. C'est long, hein. Apprendre à lire, c'est dur, hein. Elle m'apprenait, elle m'achetait des beaux bouquins. Ils m'ont touché, ce bouquin, toi. Je les vois dans ma tête, les bouquins qu'elle m'avait achetés. J'ai jamais retrouvé sur une brocante. C'est la recherche, les bouquins.
Mais en fait, et quand vous rentriez à la maison, vous reveniez avec les livres?
Bah oui, puis elle me les prenait. C'est ma mère qui les a volés. Je disais à ma tante. Putain, elle a fait ça, tu vois, on va essayer d'y reprendre. Ben, elle ne donnait jamais les bouquins. Puis après chez moi, on va les laisser chez vous, la tante. Puis c'est ça qu'on faisait, voilà. On va acheter un livre sur la famille, hein. C'est rigolo ça. Autant m'expliquer comment vivre avec une famille. Ça m'avait intéressé, ça m'avait, toi, la percussion du bouquin, toi.
Et en fait, vous saviez que dans les autres familles, ça se passe pas comme ça?
Ah non, je le voyais bien, elle m'avait prêt à lire. Après, tu le sais, hein.
C'est en fait, c'est par les livres que vous avez découvert ce que c'est qu'une vie de famille.
Voilà, c'était bien. Puis par ma tante, elle m'expliquait. Sur les gens, comment ils étaient, il y a plein de trucs. Enfin, j'apprends de A à Z, moi.
Apprendre comment c'est d'être un enfant et de vivre dans une famille.
Voilà. Bah oui, elle était mère, cette femme. Elle avait des enfants. Elle a eu des enfants avant moi, heureusement. Elle a bien fait aussi. C'est moi qui ai demandé les trucs de base.
Vous demandiez comment c'était la vie.
Voilà.
Autrement que dans votre...
Il n'y a pas de gueuleur.
Ça m'intrigue qu'elle ne vous ait pas aidé plus, quoi. C'est ça.
Non, c'était pas son devoir, elle. Hein. Elle ne voyait pas ce qui se passait là-bas. Hein. C'est après, elle l'a su, elle.
Mais elle vous disait aussi pourquoi ça a été comme ça pour vous, dans votre famille à vous?
Ça, elle comprend pas, elle. Ouais. Elle n'a jamais compris. Elle m'avait dit l'autre. Ah oui, hein. Bah oui, que mes parents, ça allait pas du tout. J'étais placé après, là. Ils placent les gens après. Hein. Famille en famille.
C'est-à-dire que vos parents vous ont abandonné?
Voilà, comme s'ils m'abandonnent, ils m'ont placé chez quelqu'un, dans une famille. Ils connaissaient les familles, et puis voilà, ils m'ont mis là-dedans, hein, puis démerde-toi, après ils voulaient plus entendre parler de moi. Hein.
Mais à quel âge ils vous ont placé?
J'étais petit, moi, là. Petit. Je me rappelle plus, moi, je peux pas me rappeler. C'est impossible. La mémoire est coupée, là, après. Hein. Quand il t'arrive des trucs atroces avec tes parents, tu perds la notion. Hein.
Vous avez jamais demandé de l'aide à votre mère un jour en essayant de lui parler de...
Mon frère, j'ai demandé de l'aide. Au départ, ils s'en foutaient, puis après, putain, il a vu que... Il s'est mis en colère, mon frère. Bah oui. Ouais.
Mais alors, au début, vos frères, ils trouvaient ça normal, quoi.
Ouais, parce que, voilà, c'est comme ça. Ils rigolaient, c'est normal. Ils bouffaient, oui. Moi, je bouffais pour eux.
Et il y avait un chien dans la maison?
Non, c'est dommage. Si, il y en a eu un plus tard. Ah oui, le chien, il était traité mieux que moi, oui, je le dis, ouais. Il avait tout, il avait une couverture, il avait un habit. Il s'appelait Tilly, je me rappelle.
Et même lui, il n'était pas sympa avec vous?
Si, il était sympa. Quand il me voyait. Elle était bien nourrie, le chien. Pas moi. Ouais.
L'histoire de Pascal Audin, donc cet homme devenu il y a peu finalement dans sa vie un artiste, comment il est passé de cette vie, de cet enfer, de ce cauchemar, à ce qu'il fait aujourd'hui dans cette maison, une grande maison qui est sur la place de Jancey, une petite ville avec son château, je l'ai dit, qui est à 25 km au sud de Poitiers. Et ben voilà, comment il est passé de l'un à l'autre? C'est mystérieux. Quel enchantement, quelle surprise, quelle rupture, quel miracle, on peut dire, l'a fait passer de ce cauchemar au soleil, aux millions de soleils qu'il peint sur ses toiles, pas seulement sur ses toiles, il y a des toiles, des objets, des casseroles, tout ce qui lui tombe sous la main, il peint ainsi. Il y a un très bon papier que j'ai sous les yeux de Claude Aumont, peut-être Claude Aumont, dans la Nouvelle République. C'est extraordinaire comme des gens aussi extraordinaires, évidemment, d'apparence ordinaire, peuvent donner de talent aux autres. C'est singulier comme phénomène, ça aussi.
Là, on est dans les marches, on fait un détendu dans mon temps.
C'est des formes pédagogiques. J'y allais tout seul, en plus. Si ma tante a m'emmené là-dedans pour essayer de me réadapter, toi, dans la société, c'est pas facile, hein. Les instituts, toi. J'arrive pas à dire le nom, moi. C'est un truc pédagogique, toi. C'était des gens comme des psychiatres. C'était pas des psychiatres, en plus des docteurs. Puis, tu sais, il avait des grands cahiers, le mec, pour voir avec les yeux si j'allais bien ou pas, toi. Il me testait. C'était marrant, ce truc-là. C'est un truc pédagogique, toi, on appelle ça.
Les premiers médecins qui vous ont observé, ouais, ils ont trouvé que vous alliez bien?
Pour eux, ouais. Ouais, pour eux. Même déshabillé, jamais, je voulais pas. Bah oui, voilà, tu sais.
Et vous, vous ne vous racontiez rien?
Bah non, mais c'est... ça va être trop peur de... Tu vois, ça sache. Bah oui. Hein.
Pourquoi vous vouliez pas qu'il vous déshabille?
Quand t'es marqué à vie. Marqué, c'est là-dedans, c'est dans l'estomac, là, non hein? Bah, ça se voit pas. Bah je le sens, moi. Je le ressens, moi. Mais oui, hein. Quand tu veux cacher la vérité, hein. Ah non, ça se voit pas. C'est là-dedans. Non, non, je voulais pas. J'étais un enfant, toi, je vas... Tu peux pas imaginer un enfant... Comment ça s'appelle, les mots, toi? Ça va pas dire ce mot. Ouais, ouais, frusté, là, toi. Hein? Après, t'es frusté dans toi-même aussi. Hein? T'es sali, voilà. Quand t'as un enfant comme ça, tu peux pas. T'oses pas. T'es vachement pudique, après. Hein? Quand tu veux pas déshabiller, hein? Il l'aurait vu, le mec. Hein? Ah là, ça aurait été loin, pas toi. Mais je voulais pas, moi, toi. Je voulais que personne ne sache, moi, ça. Toi, je voulais pas faire un scandale, moi, avec mes parents, après. Hein? Dans mon cœur.
Mais alors, pourquoi vous n'avez pas parlé au médecin?
Pour les médecins, ça ne sert à rien. Ils disent que c'est secret personnel, c'est pas vrai. Mes parents, ils payaient tout le monde, toi. Ça se passe comme ça dans les familles. Hein. Faut pas que ça se sache autour de nous, autour du village. C'était un petit truc à Buxerolles. Tout le monde se connaissait, toi. Peut-être ma mère a payé les gens pour rien dire après, toi.
Mais comme
ça se passe comme ça.
Mais les gens devaient le savoir dans le village.
Ah non, ils me voyaient pas. Parce que là, ça allait plus du tout. Hein. Bah oui, je voulais pas rester chez moi. Bah oui, je m'échappais des fois. Hein. Il n'y a que ça à faire pour me sauver, moi. J'arrivais à m'échapper, moi. Bah oui, personne ne voulait rien faire dans ce temps-là. Bah oui. Passer par les toits. J'ai défoncé le toit pour me sauver, moi. Bah oui, hein. Bah, je remets une solution et tout était fermé. J'ai défoncé la porte avant, puis le toit. Puis là, je suis parti, voilà. Bah, je me démerde. C'est dur, hein. Puis je suis pas revenu après, moi. Ah ouais.
Et vous êtes allé où?
Partout. Ah oui, hein. Pour essayer de trouver de l'aide. Personne ne voulait m'écouter. Demander de l'aide à quelqu'un pour essayer de m'en sortir. Jusqu'au jour où il y a une catastrophe aussi. Voilà. Ah oui, hein. C'est comme ça que ça arrive, les catastrophes, des fois. Hein. Moi, je vous dirais pas, c'est un truc qui est dans moi-même. C'est secret, ça, après. Ah oui, mais je vivais dehors, moi, c'est tout. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, vers 14-15 ans, c'est là que vous êtes enfui,
voilà,
et vous êtes resté dehors, alors?
Voilà, je voulais rester dehors, c'était mieux. Pour moi, il n'y avait pas battu, rien, dehors. Personne ne me fait de mal, moi. Et
théoriquement, on vous a pas cherché?
Si, ils ont essayé. À chaque endroit, j'avais une toile de tente. Ils me l'ont volé. C'est le bordel, ça, un peu.
Oui, mais moi, je parle de vos parents.
Ah oui, c'est eux qui me volaient ma toile de tente. Et ils m'avaient repéré. J'ai couché dans un champ. Dit, tiens, il est là, à tel endroit, on va y piquer ça dans le temple. La méchanceté, c'est ça. C'est dingue comme ils sont, les parents. Hein.
Mais même la police, théoriquement...
Non, la police, non. Rien. Je m'avais enfui, regarde, j'avais 14 ans, je m'avais enfui. Et je me rappellerai toute ma vie, mon frère s'en rappelle de ça. J'avais 375 kilomètres. J'ai piqué le vélo de mon frère. 14 ans, pour un petit de 14 ans, c'est déjà bien. Hein. Voilà la notion de la route. Hein.
Mais pourquoi vous avez fait autant de route?
Parce que j'en avais tellement marre de mes parents, j'ai piqué le boulot de mon frère. Une connerie, c'est ça. Et là, je peux dire, j'étais déçu, en fait. Là, ils m'ont battu, là. Ah, bah là, la rouste. Ils m'ont retrouvé, bah, les filles qui m'ont, ils m'ont chopé, d'abord. Bah, je fouillais les poubelles, toi, pour bouffer, toi, hein. Bah, j'ai pas fait de vol, comme ça. Ah, bah, ils m'ont téléphoné à mes parents, bah, non, je dis pas, fallait le chercher, en fait. Parce que non. J'étais pas fier. Bah, j'ai commencé une branlée, comme j'ai jamais vu une branlée comme ça. C'est dur. Hein.
Là, ils vous ont ramené à la maison et vous avez été obligé de rester de nouveau?
Bah oui. Hein. Voilà. On choisit pas sa famille. Hein. Ça c'est vrai. Hein. Thank you.
les ours en plus. La passion de Monsieur Audin, c'est les ours.
Mais vous avez combien d'ours là?
Oh, je compte même plus. Déjà, j'en avais compté 2009 déjà. Nounours, il y en avait un peu plus maintenant. Il y en a plein de côté dans une chambre, elle est remplie la chambre. Ça rappelle l'enfance que j'ai pas eu, moi, elle est là, moi.
Oh, ça va.
Alors ça, c'est le premier étage. Hein.
Voilà. Tiens, il n'y a plus de lumière, c'est vrai. J'ai enlevé l'ampoule, j'en avais besoin. Allez, là, il y en a partout, là. Ça, c'est mon honneur de mon enfance.
C'est un ours en peluche. Voilà.
Mais je l'aime bien, il est vieux. Il est de mon âge. Il a mon âge. Ah oui, il a 50 ans. Puis il est pas abîmé. Puis dedans, il est en paille. Ils ont tous une âme, les ours.
Mais vous avez eu des ours dans votre enfance?
Oui, j'en ai eu un. Il s'appelait Matouvu Ménézup. Et puis il me suivait partout, à l'école, partout. J'étais une fois à l'école, il me suivait partout. À l'école.
Vous le cachiez à l'école dans votre pull?
Ouais, c'est rigolo. Bah oui, j'ai raconté des histoires, mais il me raconte des histoires, peut-être. Voilà, c'était mon ours préféré.
Il n'y a qu'à lui que vous parliez,
voilà,
quoi.
Voilà, c'est marrant. Quand j'étais un garçon timide, je causais à personne, parce que je causais à mon ours, il me donnait les réponses, moi je donnais autre chose, moi. Du bien-être. Il m'embrassait, moi j'embrassais. Voilà, il me suivait partout. Puis un jour, je l'ai enterré pour pas que personne ne le prenne. J'ai grandi, et puis, pour pas l'emmener partout, c'est vrai. Eh ouais.
Alors, comme vous pouviez pas l'emmener partout.
Je voulais pas que mes parents me le volent. Je voulais que personne ne le prenne. C'était fort, ça, pour moi. Ça m'a touché beaucoup, ça. Puis j'y repensais, quoi, des années après, ça, c'est marrant.
Vous l'avez mis à quel âge, vous l'avez enterré?
J'avais 15 ans. Je l'ai enterré dans une grande carrière, je sais où que c'est. Je l'ai enterré, j'ai fait un trou, puis j'ai fait une croix, bien, c'est marrant.
Vous l'avez retrouvé?
Non. Je l'ai pas retrouvé, impossible. On va pas démonter la carrière. C'est comme ça, c'est l'instinct. Je veux personne ne prenne mon ours. Je l'ai enterré. Pour y donner la vie. Et maintenant, je collectionne les ours parce qu'ils ont une âme dans moi. Bon, je peux en parler. C'est trop douloureux. J'aime pas les médecins. Ils m'apportent pas du bien-être. Ils font des choses que non, je peux pas admettre. Voilà. Mais des fois, j'ai pas envie de raconter. Parce que ça fait trop mal dans son cœur.
Ça fait plus mal que l'histoire des parents?
Ah oui, ils donnent trop de médicaments. Tu deviens cinglé avec ça. Ça rend les gens fous. Ouais. Puis les piqûres aussi. Modécate. C'est un traitement qu'il donne ça dans les fesses. Là, ça t'assomme, boum, tu tombes. Ouais.
Mais qui vous avez envoyé dans cet hôpital?
C'est mes parents. Ah, c'est plus dur. Hein. Voilà, c'est pour ça que je peux en parler, toi.
c'est trop dur pour moi. Ah oui. J'étais placement d'office. D'office, t'as plus le droit de sortir. Mais j'étais jeune. C'est dur pour un jeune de 15 ans de rentrer dans un hôpital comme ça. Ah oui, hein. C'est très très dur avec tout ce que j'ai subi avec mes parents. Puis rentrer dans un hôpital comme ça, c'est pire, ça. Et tu viens de cintrer après, hein.
C'est pire que ce que vous ont fait subir vos parents, c'est possible?
Oui, oui. Ah ouais, oui, oui. S'il n'y a personne pour sortir de là-dedans, c'est dur, hein.
Mais vous en êtes sorti quand même.
Oui. Le docteur a pas voulu me laisser sortir, puis un jour, quelqu'un est venu me chercher un jour, hein. Enfin, je m'en sorte, moi. Quelqu'un a fait la démarche de me sortir de là-dedans. Hein. Quelqu'un que j'aime bien maintenant, voilà. Un de mes frères. Voilà. On m'a dit, faut pas que tu restes là-dedans. Tu viens complètement cintré là-dedans. T'as vu comment t'es uniforme. Ça te rend ces médicaments. Le Modécat aussi, hein, ça fait des trucs incroyables. Hein. Puis tu sens pas ta force. Hein. Les membres se tournent. Tu pourrais tuer un mec dehors, hein, sans le savoir. Les gens, ils peuvent pas imaginer. Tu tapes la tête contre les murs, les gens, ils peuvent pas imaginer. Hein. Ah oui, hein. Tu sais pas ce que tu fais. Tu fais caca sur toi-même. Hein. Voilà, c'est ça. Tu t'en rends pas compte.
Mais vous êtes resté combien de temps?
Assez longtemps, ouais, quelques années.
Mais sans l'intervention de votre frère, vous ouais. y seriez encore, en fait.
Voilà. J'aurais pas peint. J'aurais pas vu les plus belles choses de ma vie se dérouler. Connaître du monde, peindre. Il y a une force, disons, moi, je voulais y arriver, moi, à me sortir de ce pétrin, là, putain. Moi, j'ai surmonté tout ça, moi. J'ai une force en moi-même que les gens voient pas. C'est là-dedans que ça reste, et puis ça explose un jour. Hein. Hein, pas bien que ça explose. Hein. C'est bien, ça. C'est une force de la volonté que j'ai eue. C'est bien. Je suis content. Il y a bien des gens qui me le disaient. Ils me disaient, toi, tu n'y arriveras jamais. Hein. Eh oui, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me le disaient dans les hôpitaux comme ça. Ils me disaient, toi, tu vas revenir. Hein. Non, non, je ferai pas l'erreur, j'ai dit. Toi, je suis sorti, c'est terminé. Je reviendrai jamais. Et le mec, il me dit, tu vas rechuter. Tu vas rechuter, oui. Hein. Il y en a qui rechutent, c'est vrai. Moi, j'ai pas rechuté, hein, voilà. Moi, je voulais pas rechuter, je voulais faire quelque chose de ma vie, moi. Toi, je vais essayer. Mais quoi faire, aussi, au départ, c'est pas facile, hein. Peindre, c'était mon plaisir, après, voilà. Mais les gens sont très contents de moi, maintenant. Ils m'encouragent, c'est bien. Ça me donne des bons points dans ma vie.
On le retrouvera demain, Pascal Audin. Merci à tous, c'était un reportage d'Anne Rioux. Merci à toute la tribu Bernardo, ainsi qu'à Odile. Ça, c'est un message d'Anne Rioux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Farid Chibani, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission. Charlotte Perry assiste toute l'équipe ainsi que le répondeur qui attend vos messages au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 et Charlotte mettra en ligne les titres des morceaux qui n'ont pas manqué de vous intriguer, les chansons de ce jour sur le site donc France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. N'oubliez pas non plus qu'il y a un mail où vous pouvez correspondre avec l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.
J'étais peintre de métier en bâtiment, mais ça me plaisait beaucoup. Puis une histoire, ça m'a pas plu. Après, j'étais complètement révolté, toi.